Vous êtes dans Salon Privé, vous êtes sur Radio Fusion 95.3 et 103.2. Salon Privé, tous les lundis soirs entre 21h et 23h. Ce soir, c'est avec Maurice Antiste que nous irons jusqu'à 23h. Maurice Antiste, sénateur de Martinique, qui est ce soir notre invité. Maurice Antiste, homme de gauche, on peut vous qualifier comme ça ?
Oui, et j'y tiens. J'y tiens parce que ça veut encore dire quelque chose. Et je me demande si ça ne voudra pas dire des choses de plus en plus. Parce que nous sommes dans une espèce de mondialisation qui fait que les hommes ont tendance à être uniformisés. Et cette uniformisation me gêne. Parce que dans la pratique et dans le quotidien des gens de ce monde, et donc des gens de mon pays, il y a nécessité à exister, nécessité à se protéger contre l'uniforme. Et se protéger, c'est se chercher. La mondialisation, c'est se fondre et se confondre. J'ai pour habitude de dire que pour exister dans la mondialisation, il faut d'abord exister par soi-même. Mais quand on n'est rien, eh bien on est presque encore moins devant la mondialisation. Et donc mon combat, c'est un combat pour l'identité. Je ne suis pas le premier à le dire. Mais je repense à des aînés. C'est un combat identitaire fondamental. Parce que pour fréquenter l'autre, il faut d'abord être quelque chose. Je ne peux pas ne pas être et fréquenter l'autre. Je ne veux pas que l'autre voit en moi sa propre image. Et la colonisation a ceci d'exceptionnel et a ceci de d'exceptionnel, oui, le mot est correct, c'est de dénaturaliser l'autre et d'en faire une photocopie, sa propre photocopie. Et moi, je refuse ça. C'est ça qui s'appelle être homme de gauche. C'est pas plus compliqué que ça. C'est refuser de rentrer dans le moule qu'on me prépare, refuser qu'on me découvre, parce qu'en tant que prof, j'ai toujours refusé que mes élèves utilisent l'expression « découverte de l'Amérique ». Ça, c'est une insulte à l'existence de l'autre. Mais je refuse d'être découvert. Je préfère qu'on me rencontre. Je préfère que les civilisations d'ailleurs, eh bien, viennent chez moi et dans un ailleurs qui n'est pas leur monde, et cherchent à me rencontrer, mais pas cherchent à me découvrir. Et ils ont tellement bien manœuvré qu'ils sont arrivés, et il y a encore des traces aujourd'hui de ce malentendu profondément historique, c'est qu'aujourd'hui, nous refusons inconsciemment nos propres affaires au profit des affaires de l'autre. Un exemple, jusqu'ici, j'ai envie de voir un enterrement des gerbes de fleurs de mon pays. Ce n'est pas encore arrivé. Nous n'avons aucune spontanéité pour le faire. Pourquoi pas une gerbe de coquelicot ? Non, je n'ai jamais vu ça. On va me dire, oui, mais ça ne tient pas. Mais enfin, on peut se donner les moyens pour les tenir. Toutes nos gerbes sont faites encore de la vraie fleur, la fleur de l'autre et pas de la mienne. Vous savez, quand les premiers sont arrivés ici, ils sont arrivés au nom d'une histoire, de la leur, et ils se sont posé la question en nous découvrant, d'abord en découvrant l'autre qui a d'abord été l'habitant premier du pays, c'est pas les Noirs, c'est les Caraïbes, disons les Rouges, pour faire allusion à ce qui s'est passé aux États-Unis. Et il s'est posé la question tout de suite, mais de qui c'est qui celui-là qu'on rencontre? Est-ce qu'il est mon égal? Est-ce qu'il est au-dessus de moi? Ou est-ce qu'il est en dessous de moi sur le plan purement humain, des valeurs humaines? Et il a vite fait de passer à la solution qui était la plus confortable pour lui. C'était de le classer comme sous-homme. Il ne peut pas être notre égal. Et la traite a commencé dans cet esprit-là. Si je peux me permettre, sans être trop pédant, conseiller à vos auditeurs un ouvrage pour comprendre ce que je veux dire là, c'est La controverse de Valladolid, de Carrière. C'est très important de lire ça pour comprendre. Et puis après ça, il faut aller à d'autres ouvrages pour comprendre ce mal absolu qu'est la colonisation. Il n'y a pas plus grand mal sur cette terre que de coloniser un autre. C'est pour ça que je dis être de gauche, c'est refuser cette colonisation d'abord historique, ensuite la colonisation moderne qui continue, c'est refuser et chercher à être soi-même, chercher à être un pays, chercher à être une nation, chercher à être peuple, à faire peuple avec ceux qui sont comme moi. Si bien que ça nous amène forcément, Ignace, à un besoin fondamental de réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, c'est refuser la découverte de l'Amérique. C'est plutôt lui préférer la rencontre des deux mondes, la rencontre de plusieurs mondes. Réécrire l'histoire, c'est faire comme Césaire l'a fait. Il a réécrit La tempête de Shakespeare. Il a écrit et Césaire a édité Une tempête. C'est fondamental ça. C'est le point de vue de Shakespeare qui est un Européen. De ce point de vue, de son point de vue, il écrit le rapport entre le maître, l'esclave, et puis le troisième qui arrive, le mulâtre. Césaire dit, oui, mais ça c'est votre point de vue, mais je le réécris. Je le réécris de mon point de vue. Là, c'est le maître qui écrit, mais maintenant c'est l'esclave qui écrit. Et il a écrit Une tempête. C'est fabuleux. C'est des choses extraordinaires qu'il faut
J'ai
avoir.
J'ai oublié de préciser tout à l'heure que vous étiez également un homme de théâtre.
Vous savez des choses. C'est vrai que j'ai été amené à faire du théâtre avec le Théâtre populaire martiniquais, avec Henri Melon, que je salue s'il nous écoute, qui nous a beaucoup, beaucoup apporté, puisque nous avons joué au Festival culturel de Fort-de-France dans deux pièces de théâtre que je n'oublie pas. J'ai fait aussi du théâtre, j'ai fait une troupe de théâtre au François qu'on appelle le Théâtre du Colibri. Ça avait du sens pour apporter un petit peu de notre savoir à ces gens qui étaient prêts à réfléchir sur leurs conditions. Mais c'est tout ça, être un homme de gauche.
Lorsqu'on est parlementaire martiniquais, noir, qu'on siège au Sénat, est-ce qu'on a l'écoute de la grosse majorité blanche du Sénat ?
Très difficilement. Je peux vous le dire, très difficilement. Et les derniers débats me confirment dans ce que je dis. Et je vais plus loin. J'ai découvert une espèce de racisme au Sénat. Entendons-nous bien, très partiellement. Mais le drame, c'est que c'est dans mon groupe politique.
Et vous, groupe y, politique êtes, de et vous, gauche. Et vous y êtes encore ?
Oui, j'y suis encore parce que c'est vraiment c'est une ou deux personnes qui se posent des questions encore et qui se demandent en nous regardant, mais... Nous sentons la question. C'est la même question du colon à l'arrivée sur les terres d'Amérique. La même question, comment ? Ils sont comme nous. Ce sont vraiment des sénateurs vraiment. Ah bon ? Comment ils s'expriment comme nous ? Comment on sent le questionnement. On se demande d'où vous sortez. Mais c'est pas général, sans quoi j'aurais déjà quitté ça. J'ai découvert également des hommes extraordinairement humains. Et des sénateurs de tous bords qui mettent en avant le côté humain de la personne que vous êtes. Ça aussi, il faut pas l'ignorer. Et c'est fabuleux, des hommes vraiment comme on est moins rencontrés tous les jours. Mais c'est un combat pour qu'ils comprennent la différence. Et c'est ça mon combat de parlementaire, avant même d'éplucher les textes, avant même d'essayer de les tropicaliser. C'est d'abord leur faire comprendre que, et que c'est à eux qu'on doit ça d'ailleurs, ou c'est à cause d'eux. Je ne leur avais jamais demandé de venir me découvrir, et encore moins de venir me rencontrer. Qu'ils assument aujourd'hui, eh bien je sors d'une terre qu'ils prétendent avoir découverte, eh bien qu'ils assument la rencontre que je leur impose aujourd'hui. Oui, Ignace, ils ont un mal fou à comprendre notre différence, à comprendre que nous avons aussi une entité territoriale, que nous avons une entité climatique, que nous avons une entité culturelle, que nous avons une identité psychologique qu'il faut que nous assumions et qu'il faut qu'ils acceptent. Et ça, c'est extrêmement important. Eh bien, c'est mon combat de tous les jours en tant que parlementaire.
Ça avance ?
Oui, j'ai l'impression qu'on finit par nous comprendre. Mais ça passe par des combats. Il faut vous affirmer très fort dans les moments opportuns et on vous regarde autrement. Et ils finissent par nous voir autrement.
Vous êtes bien, aidé en cela par Catherine Conconne.
Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Elle a un tempérament plutôt rare, mais très important.
Comme on dit chez nous, sans cravache.
Ah oui, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et je pense qu'à nous deux, on travaille beaucoup à modifier la vision qu'ils pourraient avoir de là-bas, la vision qu'ils pourraient avoir de notre monde. Et nous les invitons à venir voir que nous ne sommes pas sous les bois, que nous avons des équivalences, que nous sommes aussi cultivés, sinon plus qu'eux, très souvent. En tout cas, nous affichons nos vraies valeurs et nous leur disons que nous ne sommes pas de nulle part. Nous sommes de quelque part.
Nous allons, François.
Oui.
Nous allons, François. Oui. J'ai reçu, sur ce même canapé, Madame Mousseau,
ah,
qui a dit beaucoup de bien de vous.
Ah, j'avoue, je dis, ah, mais cela ne m'étonne pas.
Non, parce que elle avait l'air sincère.
Oui, oui, elle est sincère. C'est une gentille petite dame que j'apprécie. On est copains. On est copains. Et, ben, elle a pu vous dire ses espérances, son quotidien.
Elle m'a dit que, quand je lui ai demandé son avis sur vos différents mandats, elle m'a dit que vous aviez fait des choses, qu'elle ne pouvait le nier, mais qu'elle sentait que votre équipe était à bout de souffle.
Oui, j'accepte ce qu'elle dit, même si ce n'est pas la vérité. Mais il faut bien qu'elle dise quelque chose, il faut bien qu'elle se défende. Et Karine Mousseau, c'est quelqu'un de très spécial. C'est une fille plutôt gentille, que j'apprécie, mais qui, malheureusement, et j'espère que l'histoire présente et à venir me donnera raison, je la taquine gentiment, puis dire qu'elle n'est peut-être pas faite pour ce qu'elle envisage. Je la vois mieux dans un social économique qu'à la gestion en tête de file d'une ville comme le François.
Même si elle en rêve.
Mais, ah oui, c'est son rêve et elle a le droit. Et je l'encourage à rêver. Mais elle ferait mieux certainement de venir plus près de nous et puis d'accepter de ne pas être devant.
Tentative de récupération.
Mais oui, mais je la taquine. Elle est gentille, elle fait beaucoup de charme, tiens. Elle fait beaucoup de charme à tout le monde. Mais je veux lui dire ici que ce n'est pas le meilleur outil pour recevoir, pour réussir en politique. Ce n'est pas en faisant du charme. Mais elle est très gentille et j'accepte qu'elle m'en fasse. Parce que Karine, elle est avec tout le monde. Elle est bien, mais il lui manque, je pense, de la culture politique. Mais je lui souhaite quand même bonne chance.
Monsieur Tavernier sera un adversaire sérieux aux prochaines élections municipales. Est-ce que vous le craignez au MPF ?
Alors, ça, c'est autre chose que vous avez reçu aussi ici ?
Non.
Pas encore, oui. Je préfère, très franchement, je vais vous surprendre, ne pas parler de l'insignifiance.
Oh là !
Je savais que vous seriez surpris.
Oh là !
C'est de l'insignifiance dans beaucoup de points de vue. Dans beaucoup de points de vue, parce que il espère gagner demain, mais sur la destruction de l'autre. Et c'est pas dans mes combats, ça. C'est pas dans mes combats. C'est un spécialiste du mensonge. Le mensonge, c'est l'un de ses meilleurs arguments. Il perd régulièrement, il a déjà beaucoup perdu.
Est-ce qu'il n'a pas gagné du terrain au fil des élections ?
Je ne sais pas. Depuis la dernière fois, il a progressé la dernière fois. mais je doute qu'il aille plus loin parce que ces outils politiques ne sont pas les meilleurs dans des intrigues politiques permanentes. Et je l'invite à continuer à perdre jusqu'à ce qu'il se retire parce que ce n'est pas sain ce qu'il propose. Autrement, je l'invite lui aussi.
Vous le situez comment sur
l'échiquier ? Nulle part. Nulle part. C'est un opportuniste. Il se disait de gauche. Il a participé au G20. Devant l'échec du G20, il a participé à une relance qui se passait dans le Nord, autour du maire du Prêcheur. En fait, il se cherche. Et de G20, j'ai peur qu'il passe à G-rien. C'est l'image que j'ai de l'individu, et je suis obligé d'en parler comme ça. En tout cas,
c'est pas le grand amour entre vous.
Non, pas du tout. Mais je ne lui en veux pas plus que ça. Mais sachez que je ne le considère pas comme étant un passage obligé sur ma route ou sur la route de mon mouvement, parce que on voit qu'il n'est pas crédible. Je le dis très franchement, je n'aime pas faire l'hypocrisie, mais on ne bâtit pas une carrière politique sur du mensonge. Et ce que je vous dis là, je peux le prouver devant n'importe quelle juridiction parce que j'ai des outils pour ça. Et ça va continuer, je suppose. Donc,
ça va être chaud, François.
Je ne sais pas. En tout cas, nous ferons notre petit chemin, tranquille.
Alors, des bruits me sont revenus qui disaient que Maurice Antis pète la mairie au François, il qu'est viré lui-même. Vrai ou faux?
Non, c'est complètement faux. Mais je suis en train déjà de mener bataille comme s'il s'agissait de moi. Je serai présent en tête du combat, je serai présent avec ceux qui seront sur la liste.
Qui sera candidat chez vous?
Ben, pour le moment, nous avons fait un appel, parce que chez nous, il y a un processus qui est respecté à tous les coups. Il y a un appel à candidature pour être tête de liste, un appel à candidature. Ces candidats, les candidatures sont analysées ensuite pour savoir qui peut le rester ou pas. Cette phase-là, on vient de la passer. Donc, il y a trois candidats qui vont s'affronter au sein du groupe.
Vous avez votre favori?
Pour le moment, non. Je n'ai pas intérêt en tant que président du groupe. Je n'ai pas intérêt. Il faut que je puisse mener l'affaire avec le plus de dextérité possible, le plus d'objectivité, de neutralité. Ensuite, la phase qui s'annonce, c'est ce soir, la nouvelle phase. Enfin, ce soir, mais non, puisque... Bon. Il y a la phase de conciliation où les candidats sont laissés seuls entre eux pour voir s'il peut y avoir des désistements et s'ils s'entendent. Si ça ne va pas jusque-là, ben les trois seront candidats et l'Assemblée générale va faire son choix. C'est dans cet esprit-là, c'est comme ça que nous naviguons. Et nous aurons bientôt, donc, à la fin du mois, un candidat tête de liste. Et le combat va vraiment démarrer sur le terrain.
Quelles devraient être les priorités de la prochaine mandature à la mairie du François? Madame Mousseau dit que le François est peut-être la commune de Martinique qui a le plus d'atouts au plan touristique. Mais qu'elle reste un peu sur sa fin parce qu'il y a des sites, des endroits, des atouts qui n'ont pas été explorés à fond.
Elle a raison. Vous voyez que même chez les adversaires, je peux dire que quelqu'un... Elle a raison. Nous sommes certainement... C'est pour ça d'ailleurs que sous le logo de la ville, il y a la phrase suivante, « Terre d'authenticité ». Le François, c'est une terre d'authenticité. C'est vrai qu'il y a tout pour que puisse en faire une vraie ville touristique. Il y a la mer, il y a les îlets, il y a la taille, il y a des sites extraordinaires.
Il y a les yoles.
Il y a les yoles, merci. Vous savez que c'est la ville qui a été qui a compté le plus d'habitations dans les siècles passés. Et d'où la présence d'ailleurs de 80% des béquets sur le territoire. Il y a donc des sites historiques encore inexploités, mais c'était une ville aussi qui n'avait pas de marché, qui n'avait pas d'église, et il fallait assumer. Et c'est 7 millions l'église, sans aucune subvention, parce que vous savez que ne sont pas subventionnables les objets de culte. Les lieux cultuels ne doivent pas recevoir de... Donc il a fallu refaire ça, il a fallu refaire le marché, il a fallu mettre en sécurité les pompiers qui étaient les premiers à être en danger lorsque l'eau montait au François. C'était les premiers à crier au secours. Nous avons fait aujourd'hui une véritable caserne de professionnels au François, etc., etc. Je ne vais pas énumérer. Donc, l'un après l'autre, tout ça pour vous dire qu'elle a raison et que le François, en tout cas, est une ville encore à développer, étant le deuxième territoire en superficie de la Martinique, après Lamantin, avec le Gros-Morne. Gros-Morne et François ont à peu près les mêmes dimensions. Et donc, ça aussi, c'est des atouts extraordinaires. Une cuvette avec des mornes qui présentent des sites d'observation exceptionnels. Là, elle a raison.
Comment vous n'arrivez pas à régler le problème d'eau au François ? Les inondations récurrentes.
Ah, mais vous savez, on l'a largement réglé en partie. Pourquoi ? Parce qu'on a compris, après des études, qu'il fallait une maîtrise des eaux venant des mornes. Et ça a été fait, il y a des travaux très sérieux qui ont été faits. Beaucoup de ponts ont été refaits en amont, des canaux ont été élargis. Vous avez quelques routes qui ont été rehaussées, comme celle qui passe devant le stade, qui a été rehaussée de plus de 1,20 m. Et pour bloquer les eaux venant du Morne et permettre leur écoulement sous la route, mais pas de manière brutale, progressivement. Tout ça a donné qu'on n'a pas vu depuis un moment, sauf les dernières pluies qui nous ont surpris au mois d'avril, qui étaient des pluies exceptionnelles. Et il y a ensuite des sites à délocaliser complètement. Bien, quand vous avez une ville qui est construite, comme Rivière-Pilote d'ailleurs, à la confluence de deux rivières, il faut s'attendre à ces problèmes-là. Autrement dit, au François, ce n'est pas l'eau qui rentre chez les gens. Ce sont les habitations qui sont allées vers l'eau. Je parle de l'histoire du pays. Bien, il faut régler ça, l'histoire de la ville, il faut régler ça et sortir un certain nombre de maisons de la proximité.
Les permis de construire, qui c'est que les a délivrés ?
Bien, à l'époque, oui, c'était en totale méconnaissance. Mais je vous assure que même avant moi, il faut être honnête, il y a avant moi le... Il y a eu quelques lotissements, comme le cas lotissement, qui ont été faits par l'ancienne municipalité. Mais depuis qu'on a compris ce phénomène-là, même l'ancienne municipalité avait commencé à refuser de permettre la construction sur un certain nombre de sites. Et donc, moi, je l'ai appliqué sans aucun problème.
Maurice Santis, vous n'avez jamais été inscrit dans un parti politique martiniquais. Vous n'êtes pas sorti du François. Pourquoi vous n'êtes pas au PPM ?
Non, parce que le PPM était à l'époque assez lointain comme parti. Nous n'approuvions pas tout ce qui venait du PPM non plus. Et nous estimions que notre préoccupation était d'abord celle du François, avant de régler celle d'ailleurs. C'est pour ça que nous sommes restés au François, que nous avons estimé qu'il fallait monter un groupe politique au François, et vous voyez que l'histoire notre histoire a été dans un bon choix, puisqu'après nous avons retrouvé tous ses amis dans une alliance.
Comment elle se porte aujourd'hui, cette alliance ?
Bien, justement, il y a...
Vous y avez toute votre place ?
Absolument.
Vous y êtes à l'aise ?
Absolument. Absolument, dès lors qu'on est respecté. Vous savez, c'est difficile d'avoir des entités aussi fortes les unes à côté des autres. Et en effet, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été non plus difficile, mais l'intérêt général a présidé à nos rapprochements. Et je peux vous dire que pour ce qui est aujourd'hui de EPMN, parce qu'il y a eu des alliances avant EPMN, mais aujourd'hui nous nous situons dans un rassemblement qui s'appelle EPNM et qui est une nécessité historique et politique dans ce pays, parce que personne ne saurait gagner seul. Et justement, nous sommes à la recherche du plus petit dominateur commun qui pourrait être chez nous un manifeste sur lequel on pourrait s'entendre. Et c'est là le travail que l'on fait actuellement. Je crois que ce pays a besoin de ce rassemblement. Et puis, il y a en face, pour parler de partis politiques, il y en a d'autres qui ne nous ont jamais attirés, et qui de moins en moins nous attire. On croit que les idées ne sont pas si différentes que ça. Je veux parler par exemple du MIM. le mime qui est un parti politique est ce qu'il est, nous le respectons, mais Maurice Antis n'aurait jamais sa place au mime, tout simplement parce que nous refusons le culte de la personnalité. Nous refusons que tout vienne d'un homme, d'une idée, de son idée, etc. C'est pas notre genre de truc. Et puis, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que l'autre en face est nul et que seul moi, je compte avec mes idées. Nous ne sommes pas ceux qui pensent qu'il faut verser dans l'humiliation quotidienne de ceux qui ne pensent pas comme moi. Nous avons du respect pour l'autre et nous disons que chacun doit avoir sa place. C'est ainsi que nous sommes bien là où nous sommes et nous travaillons à ce que les élections futures nous donnent toute notre place sur ce territoire.
Vous étiez deuxième vice-président de la région.
C'est vrai.
Comment ça se passait avec M. Letchimy ?
Eh bien, bien, ça se passait bien. C'est un homme très particulier, Serge Letchimy. C'est une tête bien pleine, même trop pleine, qui a des idées, les idées foisonnent chez lui pour amener ce pays dans d'autres phases de son développement. C'est un monsieur qui voit loin, qui voit vite. Et ma foi, nous avons fait équipe sans aucun problème avec lui. Mais je n'ai pas travaillé longtemps avec eux, puisque un an après l'élection, j'ai été appelé à être sénateur. Et donc, j'ai dû quitter la région. Mais je suis tranquillement. Mais nous ne sommes pas parfaits non plus à EPML. Hein. Nous avons aussi quelques défauts qui ont provoqué d'ailleurs notre défaite. Il y a des choses que nous n'avons pas su voir. Nous étions peut-être un petit peu trop loin du peuple et pas assez à côté de lui. Bon, nous sommes capables de nous faire notre autocritique. C'est possible. Mais nous avons la volonté de réussir. Et je vous assure que je suis très bien avec ces hommes et ces femmes.
Les prochaines élections à la CTM seront un beau combat. Parce que Monsieur Marie-Jeanne ne voudra pas lâcher le morceau.
Ah ben non, il l'a annoncé. Mais cela ne nous embête pas qu'il ne lâche pas le morceau. Peut-être même qu'il nous rendra service en ne lâchant pas le morceau. Mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et à lutter, pas contre l'individu Marie-Jeanne, un homme que je rencontre, on cause bien, on est bien, mais contre le politique Marie-Jeanne qui n'a jamais compris qu'à lui seul il ne pouvait détenir la vérité, qu'à lui seul qu'il ne pouvait diriger un tel pays et que sa conception de l'Assemblée n'est pas la nôtre. J'estime qu'aujourd'hui, toutes les régions de France sont endettées parce qu'elles ont compris qu'il faut investir, que c'est dans l'investissement qu'on peut développer un pays, qu'il faut s'engager même jusqu'au cou, pas plus loin, mais pour développer un pays. Et lui, sa conception très ancienne et archaïque d'une gestion d'une collectivité, c'est thésauriser, amasser de l'argent pour que demain on dise « Ah, qu'il a laissé de l'argent, qu'il a laissé des millions ». Nous ne sommes pas du tout d'accord sur cette manière de voir le développement d'un pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les activités économiques, culturelles et autres sont dans une grande souffrance.
J'ai rencontré un camarade hier. Je lui dis, demain, je reçois M. Maurice Antis dans salon privé, enregistrement demain, pour l'émission de lundi soir. Il m'a dit, il y a une question que j'aimerais que tu lui poses. Qu'est-ce qui a provoqué votre éviction des antennes de RFO pendant les tours d'Eyol ?
Ignace, je ne vais pas utiliser la langue de bois. Je suppose que vous n'aimez pas ça. Pendant 15 ans, j'ai animé la retransmission du tour d'Eyol de la Martinique. Avec un certain succès, je suis obligé de le dire, même en blessant peut-être ma modestie, mais tout le monde a reconnu en tout cas, mes compétences dans le domaine. Est-ce que ça augmentait ma popularité? Je ne sais pas. Mais je sais que les gens appréciaient, puisque divers politiques m'ont souvent dit « Merci, c'est grâce à toi que j'ai compris le tour d'Eyol ». Je suis devenu, dit-on, un incontournable sur la question de la course d'Eyol. Et tout ça me vient simplement de mon père. Mon père, nous n'avions pas de moteur et nous allions lever les casiers à la voile. Et c'était aller sur chaque nasse à la voile. Et c'est de là qu'est venue ma passion pour la voile et en même temps ma connaissance profonde, je peux le dire, de ce milieu et de cette activité. Eh bien, un beau jour, après 15 ans d'activité avec RFO, avec mon ami Camille, pour qui j'ai une grosse pensée, il avait des projets avec moi et qu'il m'a toujours demandé de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un certain chef de région a dit à l'époque à RFO, il faudra choisir entre mon argent et Antiste. C'est aussi simple que ça.
Chef de région, c'est quoi ça?
C'était Alfred Marie-Jeanne. Qu'il fallait choisir, qu'il était temps de choisir entre mon argent et le choix de Maurice Antiste sur les antennes.
Et c'est pas plus simple que ça. Et RFO a obtempéré.
Mais RFO me l'a dit. Ils étaient gênés à l'époque. Je me rappelle très bien les entrevues que j'ai eues. J'ai préféré mettre à l'aise la direction des RFO à cette époque-là. Mais vous devinez la panique que ça a laissé à l'intérieur, avec tous ces techniciens qui sont d'ailleurs devenus mes amis depuis et qui se trouvaient handicapés par mon absence. Bon, il y en a d'autres qui l'ont fait, ils l'ont fait avec plus ou moins de succès. Je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. Mais il paraît qu'en pédagogie, au niveau pédagogique, que j'avais ce qu'il faut. Eh bien, ils me l'ont avoué à l'époque qu'il y avait une pression terrible d'Alfred Marie-Jeanne dessus sur la question. Je n'ai jamais relevé ça. Je l'ai dit ici et là, mais sans esprit de revanche. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, si RFO n'arrive pas à leur dire non, que leur choix n'avait rien de politique et que le choix n'était dû qu'à la compétence découverte chez Maurice Antiste, s'ils n'avaient pas compris ça. À l'époque, c'était difficile pour eux, peut-être, de faire un tour sans l'argent de la région. Et puis, troisièmement, que l'argent n'appartenait pas à monsieur le président, mais que c'était l'argent du peuple des Martiniquais. Vous avez voulu savoir pourquoi, je vous le dis. Mais depuis, j'ai quand même continué avec plusieurs radios, Radio de Lille, jusqu'au dernier tour, je l'ai encore fait. Et peut-être qu'ils m'ont rendu un service parce que je commentais les courses d'un studio ou de la ligne d'arrivée. Mais c'était à partir de l'écran et des images, d'hélico, etc. Et depuis, j'ai retrouvé la proximité dans la mer. Je suis sur un bateau et je commente les courses comme du mieux que je peux.
Alors, dans la série des actions que vous avez menées au plan culturel, il y a, avec d'autres, la création de Radio Sud-Est.
Ah oui, c'est vrai. Radio Sud-Est, je me rappelle très bien le jour où on a décidé...
Que je salue au passage.
Très bien. C'est vrai que nous avons fait une radio. Et pourquoi? Simplement parce qu'à l'époque, nous nous fatiguions à faire des réunions. Des réunions dans tous les quartiers. Le territoire étant immense, ça nous épuisait. Et l'ancien maire, qui avait une radio à l'époque, qui s'appelait Radio Liberté, en une seule réunion, il démontait tout ce que nous disions, nous, en 40 réunions. C'était l'efficacité que nous cherchions. Et donc, à cette époque, il était encore possible de monter une radio. Et nous avons fait ce qu'il faut. Je me rappelle très bien le jour où la première fois on a pu émettre. J'étais d'ailleurs le premier directeur de cette radio. Et Radio Sud-Est est née il y a déjà une trentaine d'années, je crois, cette année, trentaine d'années. Et avec toute son histoire que nous connaissons et que vous connaissez, c'est vrai, c'est un outil mis à disposition de nombreuses personnes, de nombreuses obédiences, et on l'utilise du mieux que nous pouvons.
Parlez-nous de la chorale Colibri.
Oui, pas Colibri. Le Colibri, c'était le groupe de théâtre.
Ah oui, mais la chorale, c'était ?
La chorale du François.
La chorale du François, Claude Berelli.
Ah oui, c'était la chorale du François, c'était son titre. Après, elle est devenue chorale des îles du vent, après. Mais là aussi, ça m'a servi énormément.
Vous chantez encore ?
Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, je chante encore avec les anciens. De temps en temps, lorsque on sollicite notre intervention sur des périodes comme la Semaine Sainte, il nous arrive de chanter. Et je suis un passionné. Nous avons même enregistré avec le père Louis-Élie un album en 94 que l'on trouve encore sur le marché, où j'ai eu la chance d'être soliste sur tout l'album avec Joby Doudy. Et c'est une grosse partie de ma vie, le chant choral, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai même eu à faire, au collège où j'étais, monter une chorale. Et à faire, dans ce collège, qui était le collège du Saint-Esprit, un rallye de toutes les chorales scolaires de la Martinique. Nous avons fait ça sur une journée, c'était des moments inoubliables. Donc le chant choral, je pratique, j'y ai trouvé mon bonheur, je trouve encore mon bonheur dans ce chant, dans ce chant polyphonique. Et je vous assure que ceux qui ne connaissent pas, eh bien, perdent quelque chose. J'ai aussi travaillé un temps avec la joie de chanter, avec
Polo,
avec Polo et les frères Kataye, Tintin et le chef de chœur aujourd'hui.
Jacques,
chef de chœur. J'ai chanté un an avec eux. Ça, c'est vieux, c'était les années 72. Vous voyez que c'est vieux. Donc, j'ai passé d'excellents moments à chanter et je continue encore.
On écoute quoi, Maurice Santiste?
Du chant choral, pourquoi pas?
On va voir si on vous trouve ça.
J'espère.
Oh,
Maurice Antistet, notre invité ce soir dans Salon Privé jusqu'à 23h, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Maurice Antistet, après 4 mandatures, des regrets, des insatisfactions?
Certainement, la plus grosse insatisfaction après 3 mandats et demi, puisque j'ai été interrompu, la loi m'a obligé à faire un choix. Un grand bonheur d'avoir été au service en direct des franciscains et de la Martinique. Les regrets sur l'inachevé, tout simplement. L'inachevé parce que j'étais en phase longtemps avec ce peuple qui m'a fait d'ailleurs confiance parce que me réélire 4 fois, c'est un signe très palpable de la confiance qu'on a en soi, qu'on vous fait. Mais il y a un moment aussi où il faut savoir arrêter, passer la main. Alors, je pense que j'aurais passé la main si j'étais allé jusqu'à la fin de ce mandat. J'aurais passé la main. La loi m'a fait passer la main plus tôt, mais par contre, mon engagement reste intact et dans mon groupe et aux meilleures places parce que j'ai conscience qu'on a besoin de moi et qu'il faut aussi que je m'investisse encore plus face aux adversités qui viennent. Et c'est normal. Alors, c'est peut-être l'occasion de demander pardon, puisque vous parlez de regrets, de demander pardon à tous ceux que j'ai abandonnés dans leurs habitudes de perdre, dans les habitudes de défaite, dont l'un qui semble vouloir revenir. Je lui demande pardon et très sincèrement de lui avoir, au nom du peuple, infligé ses nombreuses défaites et lui demander pardon aussi pour les défaites prochaines qui l'attendent encore. Voici un petit peu mes regrets, mais je crois que Le François est une ville qui va continuer à se développer, qui en a besoin, notamment en matière de sport, etc. Beaucoup de regrets de ne pas pouvoir aller plus loin parce que il a fallu faire des choix.
Il n'y a pas eu une insuffisance en matière d'équipement sportif?
Mais absolument, absolument, je ne le renie pas. Le stade est vieillot. Le stade est vieux, mais il fallait faire des choix. Il fallait trouver 7 millions pour refaire une église. 7 millions et 4 millions 5 pour refaire la place, sans augmenter les impôts. Il fallait le faire. Eh bien, c'est des choix. Je n'aurais pas refait cette église que je n'aurais pas été réélu. Oh,
c'est ce que j'allais vous dire. Refaire une église, c'est plus porteur électoralement.
Mais absolument. Le stade, on peut y jouer la journée. Bon, nous savons que nous avons le meilleur club, dit-on, de Lille. C'est vrai qu'il mérite mieux. Mais je rappelle aussi que c'est moi, avec mon équipe, c'est nous qui avons électrifié le stade pour la première fois. Il y a quelques 10 ans de ça. Je n'oublie pas. Donc nous sommes très sensibles à ce défaut qui est en passe d'être réglé. Nous allons reprendre les choses en main. L'heure est venue pour mettre nos sportifs dans des meilleures conditions, et pas là seulement, ailleurs aussi, dans un certain nombre de quartiers.
Un concours est organisé par M. Marie-Jeanne sur la question du drapeau et de l'hymne. Quelle est votre position?
Je vais être très rapide dessus. Vous dire que c'est une vaste plaisanterie, c'est une vaste mascarade. Je pense que c'est digne de ceux qui l'ont proposé, parce que j'y vois là un écran de fumée pour nous faire oublier le malaise profond qu'il y a sur le plan économique et sur le plan culturel de ce pays. C'est pour qu'on parle d'autre chose, ça c'est en un. En deuxièmement, pourquoi je n'approuve pas du tout cette proposition? Parce que n'oubliez pas qu'à la fin, d'ailleurs, c'était récent la date de clôture des...
Ah, voyez.
C'était ça. N'oubliez pas, ce qui est grave, c'est qu'il est prévu qu'un homme seul fasse les choix à la fin, le choix de l'hymne populaire. Je suis désolé, mais ils n'ont rien compris. Dans l'histoire d'un peuple, le drapeau n'est pas le choix d'un homme. Ce ne sont pas les hommes qui choisissent le drapeau. Le drapeau s'impose au peuple par son histoire. Et il me semble qu'il y a déjà un grand consensus sur quelque chose qui existe. Il suffit simplement de le faire adopter, le faire entériner par le peuple. Mais le drapeau qui existe ne me gêne en rien, en rien. Et puis, faut vous dire que c'est encore, pour penser à l'homme, c'est encore une recherche d'éternité. comme les pharaons de l'époque. Je pense que c'est ça. La procédure annoncée ne me déplaît pas du tout.
Me déplaît
profondément. Et j'y vois là encore une tricherie de l'histoire, comme celle de se faire appeler indépendantiste. Et ça correspond ils ne le sont pas. Et ça ne correspond à rien dans la pratique quotidienne. Rien du tout. Il faut les voir là-bas, je les vois. Non, ça ne correspond à rien. On n'a jamais entendu, pas une seule fois, une revendication portant sur l'indépendance de nos députés indépendantistes. Jamais. Jamais là-bas, mais c'est là-bas qu'il faut en parler. Non. Eh bien non, jamais. Je n'y crois pas. Je crois que c'est de la fumisterie même. Et j'ai même un peu de peine de voir régler l'histoire de ce pays à travers un drapeau qui existe, l'histoire de ce pays, de l'avoir trouvé un règlement dans les salons d'un homme. Ce n'est pas possible. Et donc, je dénonce totalement la procédure et la manœuvre.
Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait marcher aujourd'hui, Maurice Antiste?
L'espoir d'un pays, si vous voulez, non conditionné.
Avant de répondre, une question préalable, quelle est votre vision de notre jeunesse aujourd'hui?
Bien, j'ai bien peur parce que je cherche ceux qui devront nous remplacer demain. Je cherche les engagés politiques pour demain. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils ne se manifestent pas assez. J'ai peur que cette mondialisation nous ait fait un tort considérable en nous faisant passer à côté de l'essentiel qui est se retrouver, qui est le problème identitaire, qui est fondamental pour moi. Parce que quand vous prenez un petit Barbadien, observe un petit Barbadien trinidadien qui vient ici de 15 ans et qui rencontre des petits Martiniquais. Écoutez son questionnement. Écoutez ses intérêts là où ils vont, quand ils défilent dans la rue, quand ils vont à la découverte, même sur la plage. Écoutez son questionnement. Et puis écoutez un petit Martiniquais qui va à Barbade ou qui va à Trinidad. C'est le jour et la nuit. Parce que nous n'avons pas su encore faire partager la notion de la chose commune. La notion, nous ne faisons pas encore peuple. Nous détruisons un panneau de circulation, mais avec un rien, ça n'a pas d'importance. Si ça a de l'importance, parce que c'est un élément banal, mais un élément de notre vie commune. Nous ne savons pas encore faire peuple et faire corps. C'est ça que je regrette et je dis vite les jeunes, arrivez. Nous avons aujourd'hui de plus en plus de spécialistes, des hommes qui passent de gros diplômes, qui deviennent ingénieurs, voire plus, dans un domaine, de plus en plus de spécialistes, de moins en moins de citoyens du monde. Je connais des ingénieurs de haut niveau, jeunes, qui sont incapables de vous dire un mot sur la guerre nord-sud, qui sont incapables de vous dire un mot sur la découverte ce travail des conquistadors, donc qui ne sont plus des citoyens du monde, qui ne connaissent pas l'histoire du globe. Mais j'ai peur pour demain. J'ai peur. Et je m'adresse aux enseignants en particulier pour leur dire, nous avons un devoir d'accompagner nos jeunes.
Et pourtant, nous ne manquons pas de talents.
Non, nous n'en manquons pas, justement. Mais ce sont des talents dans le non-politique. Et nous avons besoin d'eux aussi dans cette vie politique. Nous avons besoin d'eux dans le social. Nous avons besoin qu'ils nous aident à être, tout simplement. Qu'ils nous aident à exister. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas grand-chose dans la mondialisation.
Maurice Antiste, nous aurons passé 2 heures agréables ensemble, agréables à mon goût. Je ne sais pas pour vous.
Mais je peux répondre tout de suite. J'ai été flatté que vous m'ayez invité à venir dans ce salon si prestigieux qui a reçu déjà de si grandes personnalités.
C'est la première fois qu'un sénateur y entre alors.
Mais le sénateur n'est pas l'homme le plus prestigieux du territoire. C'est des hommes qui ont travaillé, qui ont mis les griffes dans la terre. C'est ceux-là qui méritent votre salon. Et puis, je vais dire, avant de finir.
Quid de votre mandat?
Oui.
Il est renouvelé, renouvelable, votre mandat de sénateur.
Je viens d'être renouvelé.
Oui,
donc j'ai fait 6 ans en 2017. Oui, et donc je vais jusqu'en 23, puisque je suis sur mon deuxième mandat de sénateur. Et donc je disais que c'est peut-être le moment, mais j'aimerais inverser les rôles un de ces jours et inviter quelqu'un qui a fait beaucoup de bien à cette culture martiniquaise, quelqu'un qui nous a fait découvrir des choses fabuleuses, même sur le plan de la technique. C'est quelqu'un qui mérite toute sa place dans cet échiquier culturel martiniquais. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'aimerais pouvoir inviter ici un de ces jours, qui s'appelle tout simplement Ignace Pastel. Je veux lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'est un homme de l'ombre, mais un homme qui a fait beaucoup pour ce pays, et je sais ce que je dis.
Maurice Antiste, merci encore. Nous allons nous quitter en musique. Je vous propose Falfrit, Tipi Piri. On écoute ça et puis on prend rendez-vous pour un autre salon privé, lundi prochain, même heure, sur Fusion. Bonne nuit à tous.
Yeah. plaisir, la contemplation. Si vous étiez saisi, c'est bien l'émotion.